RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Le conflit qui déchire Israël et la Palestine semble sans fin et pourtant des solutions de paix émergent. Mais comment faire pour que les populations puissent vivre sur ce territoire? Faut-il un ou deux États et avec quelles conséquences? On va en parler avec nos invités ce matin dans Je pense donc j'agis. En tout cas, le sujet de la guerre, qu'elle soit au Proche-Orient ou en Russie, en Ukraine, c'est une actualité marquante pour tous et notamment pour les plus jeunes d'entre nous. Comment parler des conflits aux enfants? Que faut-il leur dire ou ne pas dire? On verra ça à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous croyez en une paix possible entre Israël et Palestine? Est-ce que ces deux peuples doivent régler eux-mêmes cette question? Ou faut-il une réponse internationale à ce conflit? Vous réagissez dès maintenant au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, vous le disiez ce matin, direction le Proche-Orient, parce que l'actualité israélo-palestinienne nous bouscule. Elle nous renvoie aussi aux espoirs déçus d'une paix décidément difficile à imaginer. Les deux peuples peuvent-ils vraiment vivre ensemble sur cette terre, en sécurité, dans la dignité et la paix? Qu'est-ce qui les en empêche? Les drames récents? Les pressions régionales? Leurs gouvernants? Les franges les plus extrêmes? Leur passé, leur religion, leur fierté, c'est difficile. Le plan de paix et le cessez-le-feu proposé vendredi par le président américain démocrate Joe Biden ouvrent cependant un horizon d'apaisement. Mais concrètement, au-delà de cette trêve et si elle est acceptée, où en est-on de l'issue sur le terrain? Est-ce qu'il faut un ou deux États et qu'est-ce que cela va impliquer dans le quotidien des habitants? Eh bien, c'est tout cela que nous allons essayer de mieux comprendre ce matin.
Oui, Madeleine, et avec nos invités qui nous rejoignent jusqu'à 10h.
Oui, avec nous Antonella Bellantuono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théologienne, docteur en histoire des religions et responsable des relations internationales à l'Université catholique de Lille. Merci au studio de Bruxelles et à Stéphane qui vous accueille ce matin et dont on salue en particulier la réactivité. Merci aussi à Metin Arditi d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain francophone d'origine turque séfarade, auteur de Rachel et les siens. Vous connaissez bien le terrain du Proche-Orient puisque vous y avez créé deux fondations. La première, les Instruments de la paix, que vous co-présidez avec le diplomate palestinien Elias Sambar. Cette fondation encourage l'éducation musicale d'enfants de Palestine et d'Israël. Et puis, vous avez aussi créé la fondation Arditi pour le dialogue interculturel qui organise des échanges d'écriture entre des étudiants israéliens, juifs et des Israéliens arabes, et dans lesquels chacun doit écrire une fiction en se mettant dans la peau de l'autre. On y reviendra. Merci d'être avec nous ce matin.
Et dans un instant, nous rejoindra Salam Kawakibi. Il est politologue et directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Je rappelle que vous pouvez réagir au 04 72 38 20 23. On accueillera Charles et Michel qui patientent déjà au standard. Mais on va démarrer, Madeleine, avec l'actualité dans cette région du monde.
Oui, 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 je vous propose de revenir sur cette proposition de paix annoncé par le président Joe Biden. Il est temps que la guerre prenne fin, a-t-il déclaré en proposant un plan en trois phases. C'est un plan long d'une quarantaine de jours chacun qui pourra permettre de passer d'un cessez-le-feu, on l'espère temporaire, à une paix durable à Gaza. Vos impressions sur ce plan, simplement, comment est-ce que vous percevez, Pierre, évidemment, ça c'était Metin Arditi, comment est-ce que vous percevez ce plan? Est-ce que vous restez prudent ou au contraire, est-ce que vous êtes plein d'espoir?
Alors, je suis plein d'espoir parce qu'il y a une telle pression qui est en train de s'exercer sur Netanyahou, dans le monde entier, sous différentes formes, que j'espère bien que d'une façon ou d'une autre, ce plan sera accepté. J'ai lu ce matin dans Haaretz, le grand journal israélien, que déjà Netanyahou fait une différence entre « stop fighting and stopping the war ». Donc je ne sais pas ce qu'il a en tête. Il est évident qu'il poursuit des intérêts personnels dans cette affaire depuis le début, depuis des années du reste, pour éviter d'avoir à affronter la justice où il est recherché pour un certain nombre d'infractions pénales. Mais j'espère de tout cœur que ce plan sera accepté. D'abord, pour libérer des otages, ceux qui restent vivants encore et dans quel état, mon Dieu, on va les retrouver, rendre les dépouilles de ceux qui sont morts, libérer également ce qu'on peut appeler des otages, parce qu'il y a un certain nombre, il y a à peu près 20% des Palestiniens emprisonnés en Israël, qui sont emprisonnés sous le statut administratif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi, ils ne peuvent pas se défendre. Et une partie de cela devrait également être libérée. Et ça, évidemment, c'est une bonne chose. Une troisième raison pour laquelle je suis évidemment très favorable, c'est l'arrêt de la tuerie, pour l'amour du ciel, qu'on arrête. Et puis enfin, une quatrième raison, qui est peut-être la plus importante, je ne veux pas la mettre sur le même plan que la valeur de vies humaines, mais la quatrième raison, c'est que on comprend peut-être à ce stade que la force ne mène à rien, parce que cette guerre n'est pas gagnée et le Hamas n'est pas battu, il n'a pas disparu. On a évidemment, Israël a tué un certain nombre de combattants du Hamas, a mis à mal une certaine partie de ses armes. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et on voit là que la force ne mène à rien. Et je ne sais pas combien de preuves il faudra encore accumuler pour comprendre que la force ne mène à rien. L'histoire du Proche-Orient, c'est l'histoire, si j'ose encore dire un mot, c'est l'histoire d'un problème qui est mal posé. Il a été mal posé dès le début, dès 1916 avec les accords Sykes-Picot. Vu d'aujourd'hui, il semble vraiment rigolo, je ne vais pas m'étendre là-dessus. 1917, la déclaration Balfour, faite par une Grande-Bretagne qui n'était propriétaire de rien du tout à l'époque et qui n'a reçu le mandat définitif de Palestine qu'en 2023 de la Société des Nations, mandat donc 6 ans plus tard et mandat provisoire en 1920 après la conférence de San Remo. Et donc, on voit que le problème était mal posé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 guerres. 12 guerres. Si je commence en 1936 avec la grande révolte arabe, 1948, la guerre qui a suivi la déclaration d'indépendance, 1956, Suez, 1967, guerre des 6 jours, dont aujourd'hui, 5 juin, on fête le 57e anniversaire du début, 1973, guerre de Kippour, 1982, première guerre du Liban, 1986, deuxième guerre du Liban, plus 5 guerres de Gaza, 12 guerres en 88 ans. Si on ne comprend pas que la force ne mène à rien dans cette région, alors on n'a rien compris. Et la pire des choses qui pourraient arriver, tant pour le peuple palestinien que pour l'État d'Israël, c'est qu'un jour, une guerre mène à une victoire totale. Parce qu'à ce moment-là, le vainqueur sera ostracisé pour des siècles. C'est-à-dire s'il y a une disparition des populations palestiniennes ou s'il y a une disparition de l'État d'Israël, le vainqueur sera ostracisé dans l'histoire pour très très longtemps. Donc, lorsque vous disiez, madame, ces deux peuples peuvent-ils vivre ensemble, si vous me permettez de reformuler cette question qui est très légitime, je dirais, ils doivent vivre ensemble. Ils n'ont pas le choix. Parce que l'inverse voudrait dire la disparition de l'un d'eux. Et le vainqueur serait le grand perdant, finalement.
Merci beaucoup, Metin Arditi. Je pose la question à Antonella Bellantuono. On entendait Metin Arditi nous dire que le problème a été mal posé au départ et que la force ne mène à rien. Comment est-ce que vous percevez ce plan, cette proposition de paix en plusieurs phases, Antonella Bellantuono? Est-ce que vous diriez que cela va venir nourrir l'espoir d'un apaisement ou au contraire, vous restez prudente?
Moi, quand on sépare de le Moyen-Orient, en particulier d'Israël-Palestine, je suis toujours très prudent parce que, comme nous avons vu, il y a eu beaucoup de guerres et on ne s'est jamais vraiment créé une solution. À ces moments-là, je pense que c'est extrêmement important de cesser les feux et que, en fait, parce que ça, il va, beaucoup des parties qui sont dans ces contextes, ils vont bénéficier de ça. La première chose, bien sûr, les Gazaouis, les personnes de Gaza, parce qu'ils sont en train de vivre dans des conditions qui ne sont pas humaines dans ces moments-là. Et donc, le fait d'avoir un cessez-le-feu, le fait d'avoir des aides humanitaires est très important parce que sont des conditions vraiment inhumaines. Le deuxième, bien sûr, c'est Biden, parce qu'on doit quand même penser que Biden est en train de faire toutes ces démarches parce qu'il y a les élections bientôt. Donc, sa position est très faible en ce moment-là parce qu'il y a les républicains qui l'accusent d'être, de ne pas soutenir Israël, la partie démocratique qui l'accuse de ne pas soutenir les Palestiniens. Donc, et en fait, c'est une des premières fois où les États-Unis ont pris une décision quand même. Ils ne sont pas tout dans le total favorable à ce qu'Israël est en train de faire. Bien sûr, aussi Hamas va bénéficier de ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de parler de quelque chose après. Et ça, moi, je pense que... La première chose importante, c'est libérer les gens de Gaza de cette siège. Mais la deuxième chose, c'est comprendre qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et aussi les Israéliennes. Parce que les Israéliens, bon, ils sont en train de vivre dans une condition meilleure, plus favorable des gens de Gaza. Mais on doit penser que la société israélienne, une grande partie de la société israélienne est contraire à ce que Netanyahu est en train de faire. Et la société est opposée. La société a peur d'un État palestinien, ça c'est sûr, mais en même temps est contraire et s'est opposé à ce que Netanyahu est en train de faire.
Justement, est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Oui. Parce que effectivement, c'est ce qu'on entend, c'est les Israéliens ont peur de la création d'un État palestinien. De quelle peur s'agit-il? De quoi ont-ils peur?
Ils ont peur des attaques terroristiques. Ils ont peur vraiment parce que les conditions, il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas une paix, il n'y a pas des relations sereines entre Palestiniens et Israéliens. Donc ils ont peur d'une création d'un État quand même. Un État, ça veut dire une armée aussi. Donc, ils ont peur quand même d'une légitimation de ce type d'État. Mais en même temps, ils veulent créer une solution. On doit penser qu'il y a beaucoup de réservistes, des personnes qui l'ont quitté leur famille. Il y a des femmes seules avec des enfants depuis des mois. Et donc, il y a un véritable problème dans la société israélienne.
Ouais, des réservistes israéliens, oui, qui sont partis dans le nord, notamment d'Israël, oui. Metin Arditi, vous souhaitiez réagir sur cette peur des Israéliens à l'idée de la création d'un État palestinien qui aurait, de fait, si c'est un État, une capitale, des frontières, une armée, une administration, des responsabilités régaliennes.
Je me permets d'être à la fois d'accord sur une partie de ce qui a été dit et en désaccord sur l'autre. Je suis évidemment d'accord sur le fait que la société israélienne aujourd'hui a peur de l'existence d'un État palestinien qui viendrait en quelque sorte comme une épine présente de manière permanente. Ça, c'est entendu. Là où je me permets de différer, c'est en me référant à l'image que la société israélienne se fait d'un État palestinien. Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment, je dirais quasiment tout le monde, qui parle d'une solution souhaitée à deux États. Mais de quelle solution parle-t-on? Aujourd'hui, il y a en Cisjordanie, qui serait la partie majeure d'un éventuel État palestinien, et qui est très largement habité par des Palestiniens, qui l'étaient entièrement jusqu'en 67, il y a en Cisjordanie 600 000 colons. Je ne parle pas des 200 000 qui sont dans la région de Jérusalem. On a vu ce qui s'est passé avec le déplacement de 6 à 7 000 colons en 2005 de Gaza. Je rappelle que Gaza n'est pas Terre Sainte comme la Cisjordanie, appelée Judée et Samarie par les Israéliens religieux. C'était un drame national. Je ne peux pas imaginer qu'on déplace 600 000 colons, même si j'entends autour de moi que ces 600 000 sont divisibles en 120 000 vraiment très attachés, et puis d'autres qu'on pourrait déplacer avec des swaps de territoire et des compensations économiques, etc.
Dans les 600,
il en resterait quand même 120 000. Ce que je veux dire, in fine, c'est que quand en Israël, ou dans le monde entier, dans le monde occidental en tout cas, on parle aujourd'hui d'une solution à deux États. Ce n'est pas une solution sérieuse qu'on envisage. C'est une solution, je ne veux pas dire bidon, mais enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va trouver un accommodement et ce type de solution ne respectera pas la dignité du peuple palestinien. C'est ça qui me fait peur et c'est ça qui, je crois, fait peur aux Israéliens. C'est-à-dire que lorsque eux se réfèrent à une solution à deux États, ils ne voient pas précisément un État palestinien avec des frontières assurées, avec une armée, etc. Ils voient quelque chose, et d'ailleurs Ben-Gvir l'a dit, oui, peut-être un État palestinien, éventuellement, mais enfin, vous n'imaginez quand même pas qu'il aurait une armée. Je crois qu'il y a là un paradoxe, c'est-à-dire je crois que plus on imagine un État palestinien comme un État, je dirais, normal, entre guillemets, avec toutes ses prérogatives, et moins Israël risque d'être à risque pour la suite.
Et risque plus d'être, moins Israël risque... risque
d'être à risque, c'est-à-dire d'être attaqué par la suite. Et plus l'État, entre guillemets, palestinien sera... un pseudo-État, et plus, évidemment, Israël risque d'être ensuite attaqué. C'est un peu ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà. Donc, ce que
vous êtes en train de nous dire que c'est un scénario plutôt privilégié par la communauté internationale, mais en réalité,
n'est même pas un scénario. Ce n'est même pas un scénario. Tout le monde parle d'une solution à deux États sans dire un seul mot de ce que sera ce deuxième État. Ouais. C'est ça qui me choque beaucoup. Ouais. Et c'est pas hier que ça a commencé, cette histoire. Souvenez-vous, en janvier 2017, quelques mois avant la fin du mandat de François Hollande, il a organisé une conférence à Paris pour la paix au Proche-Orient. Qu'est-ce que c'était ? C'était une conférence qui a duré un jour. Il a invité une soixantaine de pays qui ont délégué des représentants de plus ou moins haut niveau. Il n'y avait pas les Palestiniens, il n'y avait pas les Israéliens. Donc c'était une conférence pour une solution à deux États. Chaque participant avait 5 à 10 minutes de micro pour dire ce qu'il avait à dire. Et c'était fini. J'avais à l'époque écrit une chronique dans La Croix. J'avais comparé ça à un défilé de mode. C'était exactement ça. C'était pas sérieux. Et tout le monde continue, le monde entier, en tout cas le monde occidental, continue à parler d'une solution à deux États sans dire de quoi il s'agit. Et quand on commence à creuser, on voit les difficultés.
Il est 9h22 sur RCF. Ce matin, on parle du conflit qui déchire Israël et la Palestine qui semble sans fin. Comment imaginer la paix ? Est-ce qu'il faut un ou deux États ? Et avec quelles conséquences ? On en discute avec nos invités. Bien sûr, vous avez la parole. Alors peut-être que vous allez patienter un petit peu, mais on va vous la donner dans un instant. Est-ce que vous croyez-vous en une paix possible entre Israël et Palestine ? Est-ce que ces deux peuples doivent régler eux-mêmes cette question ou il faut une réponse internationale ? 04 72 38 20 23 pour participer. Ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Metin Arditi, écrivain francophone d'origine turque, séfarade et auteur de Rachel et les siens, Antonella Belanciano, théologienne, docteur en histoire des religions et responsable des relations internationales à l'Université catholique de Lille. Charles nous a rejoint par téléphone. Bonjour Charles.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'ai écouté avec attention tout ce qui était formulé jusqu'à présent et votre principal invité, enfin principal, pardon, excusez-moi, votre invité tout à l'heure a dit quelque chose d'essentiel. Les accords Sykes-Picot, effectivement, ont défini des frontières totalement arbitraires après la Première Guerre mondiale qui font en sorte qu'il y a confusion dans la définition même du peuple palestinien qui va de la Jordanie, en fait, au Liban, peut-être même jusqu'en Syrie. La question serait très, très intéressante à creuser. Et moi, je pense qu'on oublie l'aspect un peu irrationnel de la chose, puisque c'est avant tout d'un combat spirituel dont il s'agit, avec un peuple qui dit c'est notre territoire historique, pour lequel nous avons effectivement des droits qui peuvent être légitimes hein, au regard de ce contexte. Et puis de cet islam qui dit à un moment donné que le monde appartient aux musulmans et que les pervers que peuvent être les chrétiens, les juifs et les athées ayant volé ce monde devra être reconquis. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune militaire en Israël et que j'avais des femmes devant moi qui tenaient à bout de bras leur enfant en me disant « tuez-le, tuez-le, on fera d'autres guerriers de l'islam ». J'avoue que ça m'avait énormément perturbé et que j'en ai gardé un souvenir assez douloureux.
Merci voilà, Charles.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir témoigné dans Je pense donc j'agis. Voilà, ça donne du grain à moudre. Antonella Belanciano, je me tourne vers vous. Charles nous dit finalement c'est un combat sans solution entre deux spiritualités qui s'oppose. Quelle est la place de la religion dans ce conflit? Est-ce que trouver une solution politique, c'est si simple que ça, alors qu'on a l'impression, en tout cas Charles nous dit, que c'est un problème plutôt religieux?
C'est un problème aussi religieux dans le moment dans lequel le sionisme, donc l'idée qu'il doit exister un État d'Israël, est devenu en particulier un sionisme religieux. Le sionisme, au début, n'avait pas une base religieuse, pas du tout. En fait, les premières à théoriser le sionisme a été Hesse, qui était un compagnon de Marx. Donc, il était tout à fait laïque. On pense, par exemple, à les premières alias qui ont été faites en Israël par les Juifs d'Europe et qui, il avait le modèle de l'kibbutz, donc, était un modèle tout à fait socialiste. Et à un certain moment, la création de l'État d'Israël, bien sûr, la religion a pris un pouvoir très important. Ben-Gourion, quand il a eu la création de l'État d'Israël en 1948, a introduit la religion dans les systèmes scolaires. Tout est vraiment en Israël réglementé par la religion. Donc, on a le Shabbat, tout s'arrête. On ne peut pas se marier, divorcer, d'un point de vue civil, ouais. Mais simplement si on vous si quelqu'un un couple vous est marié civilement, il doit partir à Cypre ou quand même dans des autres parties parce que c'est pas possible de faire en Israël. Donc il y a quand même la religiosité qui est très présente en Israël et en particulier dans le moment dans lequel le sionisme est devenu religieux. Et ça, c'est une chose très importante pour définir la question de la solution à un ou deux États. Parce que, vous voyez, nous avons eu les Oslo dans le 1990, en fait, il y a une partie des Oslo, une partie de la société israélienne qui était d'accord avec Oslo parce qu'il disait, bon, le sionisme a finalement abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'idées de la création de l'État d'Israël. Il y a une partie de la population qui pensait à le sionisme politique, donc l'idée d'une Médinat Israël, donc un État d'Israël, donc l'idée que les Juifs, ils doivent avoir un État, et donc la chose plus importante est avoir un territoire. Et l'autre partie, dans une partie plus religieuse, qu'ils pensaient à Eretz Israël, donc la terre d'Israël. C'est-à-dire l'idée que la terre a été donnée par Dieu, donc la reconstruction du grand Israël. Et ça, c'est la chose que le sionisme religieux décida. Donc, de prendre tous les territoires qui étaient, qui, à leur avis, étaient des juifs dans l'époque de la Bible. Et en fait, ils utilisent la Bible pour justifier ça. Ils utilisent la Bible comme un livre politique.
Métinarditi, sur la question d'un sionisme qui serait politique et d'un sionisme religieux, comment ça vous fait réagir peut-être assez rapidement?
Oui, parce qu'on doit marquer une pause, donc peut-être en 10 secondes, ou alors vous préférez qu'on marque la pause tout de suite.
Problème de 100 ans, possible.
Dans ce cas-là, écoutez, on va marquer une petite pause et ça va, voilà, vous laisser le temps de...
Posons.
Ouais, exactement. Et puis on accueillera Michel également au 04 72 38 20 23 dans quelques instants. Vous continuez de nous appeler pour témoigner, pour nous parler de ce conflit qui déchire Israël et Palestine. Est-ce que on peut croire encore à la paix? Est-ce que ces deux peuples doivent régler eux-mêmes cette question, ou il faut plutôt une réponse internationale à ce conflit? 04 72 38 20 23 dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis pour vos témoignages, ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. On essaye également d'avoir notre troisième invité, Salam Kawakibi, qui est directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Il est politologue. On n'arrive pas à le joindre. On va tout tenter pendant la pause avec Madeleine. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 9h30 dans Je pense, donc j'agis. On va marquer une pause en écoutant de la musique. Ça va nous laisser un petit peu respirer par rapport à ce sujet qui parfois peut sembler un peu lourd. On va continuer d'en parler. Ça y est, on a notre troisième invité, Salam Kawakibi. On l'accueille dans un instant après cette chanson de Marie Sarah que je vous propose de découvrir.
I remember colors painted in my eyes. Green was for the springtime, blue the summer sky. And now the skies have darkened, the red clouds turn to gray. What a way to break a heart. You took all the colors away. Dark black is the color of my life. Since you've been gone, since you've been gone. Oh, if you come back, make my own. Been gone. Dark black is the color of my life. I remember vision. You taught me how to see the world of your colors was right there in front of me.
Black, c'était Marie Sarah pour vous accompagner ce mercredi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
9h33, toujours avec nos trois invités pour parler du conflit qui déchire Israël et la Palestine. Antonella Bellantuano, Metin Arditi et puis notre troisième invité, Madeleine, vient nous rejoindre.
Oui, bonjour Salam Kawabikibi.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Merci de nous avoir rejoints. On est en train d'évoquer la question du sionisme, sionisme politique, sionisme religieux. Metin Arditi, on voulait avoir votre éclairage sur cette question.
Alors écoutez, d'abord bonjour au troisième invité. Salam, salam si j'ose dire. Écoutez, initialement, il n'y avait rien de figé dans le mouvement sioniste. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement sioniste initié par Herzl, mais il y avait également, par Herzl lui-même, un mouvement qu'on appelait territorialiste. C'est-à-dire la recherche d'un territoire pour le peuple juif qui était persécuté principalement en Europe de l'Est. L'Argentine avait été retenue de manière très, très sérieuse, l'Ouganda également. Donc, au départ, il y avait un mouvement sioniste et également un mouvement territorialiste. Il y a eu une certaine ambiguïté au départ parce qu'il y avait un écrivain très, très, très célèbre à l'époque, anglais, Israël Tzankville, écrivain de romans policiers, qui avait eu une formulation qui a pris comme une traînée de poudre. Il avait dit une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et beaucoup de gens se sont engouffrés là-dedans. Moi, je me souviens que mon père, dans les années 60, utilisait toujours cette expression. Tzankville n'avait jamais fait le voyage en Palestine. Il l'a fait, il est revenu et il a donné une conférence à New York qui a été reprise par la presse, dans laquelle il a admis qu'il s'est trompé. Il y avait bel et bien un peuple. Donc au départ, et il a passé de sioniste à territorialiste. Donc au départ, il y avait une certaine ambiguïté. Quant à la religion, alors là, vraiment pas, parce que les orthodoxes, à l'époque, étaient contre, et il y en a encore beaucoup qui sont contre, la constitution d'un État politique et à leurs yeux et selon la Torah, c'est le Messie qui va constituer le pays d'Israël et pas la politique. Il y a eu un moment de bascule à mes yeux et j'en étais le 7 juin 1967. C'était un mercredi, comme aujourd'hui, mais c'était le 7 juin. En fin de journée, Moshe Dayan, qui était ministre de la Défense en Israël, et un groupe de soldats, et le grand rabbin des armées, ont conquis Jérusalem-Est. Et ils se sont retrouvés devant le mur des Lamentations. Et là, le grand rabbin a sonné le shofar, qu'on sonne la corne de bélier, qu'on sonne dans les occasions saintes. Et là, je dois dire que je crois... Tous les Juifs du monde se souviennent de cet instant. Moi-même, j'étais à Lausanne, étudiant, et j'ai vécu, alors que je ne suis pas du tout religieux, mais j'ai vécu cet instant avec beaucoup d'émotion. Et je crois que là, avec la victoire de la guerre des six jours, la composante religieuse a pris une place très importante dans le conflit. À partir de là, et à partir également de ce que la victoire éclatante du petit pays d'Israël contre les armées de Jordanie, d'Égypte et de Syrie a représenté dans l'esprit des gens. Et là, il y a effectivement eu un virage vers la religion. Et évidemment, quand on mélange politique et religion, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Et la religion a toujours le haut, tient toujours le haut du pavé parce qu'elle n'est pas discutable.
Alors, je vous lis deux messages. L'un de Michel qui nous dit « Quand les situations sont inextricables, il faut des intervenants internationaux pour qu'ils prennent conscience eux-mêmes qu'ils doivent faire la paix. » Et puis un autre de Jean-Jacques qui nous dit « Ce conflit israélo-palestinien, c'est une guerre de religion. La solution de paix ne peut venir que de l'extérieur, réglée par la communauté internationale. » On sent bien voilà cet aspect international qui revient dans certains témoignages. Il y a un mélange religion politique. Salam Kawakibi, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à ces deux témoignages?
Permettez-moi de préciser que le conflit n'est pas du tout religieux. C'est un conflit territorial pour certains et national pour d'autres. les Palestiniens revendiquent leur droit légitime d'avoir leur État sur leur territoire historique. Donc, parler maintenant du sionisme religieux, c'est un petit peu contredire le sionisme lui-même, parce que le sionisme est basé sur une idéologie tout à fait laïque. Et on sait très bien la guerre fratricide entre les sionistes, les vrais sionistes et les religieux, ainsi que les sionistes non-juifs, parce que comme il l'a dit le président américain Biden, il a dit « je suis sioniste catholique ». Alors, le sionisme aussi, qui est très développé aux États-Unis, pas maintenant, depuis la création des États-Unis, depuis le 18e, 19e siècle, avec des théories des évangélistes sionistes que Jean-Pierre Philly a bien décortiqué dans son dernier ouvrage sur la guerre à Gaza. Donc, l'actualité n'est pas du tout religieuse. Les Palestiniens, chrétiens, musulmans, voire même juifs, parce que les juifs palestiniens existaient bel et bien avant cette création de l'État d'Israël en 1948. Le pays qui a accueilli beaucoup de juifs d'Andalousie qui ont été persécutés par la reconquête catholique, le monde arabe et le monde musulman avaient des très bonnes relations. Les juifs étaient bien ancrés dans la société. Moi, je viens d'une ville au nord de la Syrie, Alep. J'ai pas vécu ça, mais mes parents m'ont raconté leur vécu avec leurs voisins juifs. Alors, essayer de maintenant inventer une guerre religieuse, c'est pour donner des arguments à tous les radicaux, de tous les côtés, que ce soit les radicaux juifs, les radicaux islamistes et les radicaux évangélistes aussi.
Merci beaucoup pour cette mise au point, Salam Kawabikibi. Antonella Bellantuono, le ton biblique...
Je peux ajouter un mot à ce qui vient d'être dit. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites... avec lesquels je suis tellement d'accord. Et je remercie Monsieur Kawakibi de les avoir dites. Parce que je viens moi-même d'une famille qui a quitté l'Espagne, qui a été accueillie dans un pays musulman. Et j'ai grandi mes premières années de ma vie dans un pays musulman. Et j'en ai gardé le souvenir le plus tendre. Je veux le dire. Maintenant... il y a un point avec lequel je me permets d'être en désaccord, c'est que malheureusement, aujourd'hui, sur le plan politique, avec des Ben-Gvir et des Smotrich, et puis avec aussi une partie de la population, les deux ministres les plus à l'extrême droite, suprématistes, il faut le dire, le sionisme religieux occupe la place. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez deux types de pensées, une pensée religieuse qui n'accepte évidemment pas la remise en cause et une pensée démocratique qui est fondée sur la remise en cause, la pensée religieuse, hélas, l'emporte précisément parce qu'elle n'ouvre pas la place à la discussion. Donc aujourd'hui, il y a, hélas, une composante de la société israélienne qui est devenue religieuse et très religieuse. On estime à peu près à un tiers de la population, 35% peut-être, les orthodoxes en Israël, dont les
juifs
fils
orthodoxes,
et les filles ne font pas le service militaire. Mais pour le reste, je suis évidemment tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit et ce qui vient d'être rappelé. Et je suis aussi tout à fait opposé lorsqu'il est dit, comme il a été dit par le président Macron, que l'attaque du 7 octobre était la plus grande attaque antisémite depuis la guerre. Ce n'était pas une attaque antisémite. C'était une attaque de territoire, c'était une attaque politique. Si, au lieu qu'il y ait Israël qui bloque depuis 25 ans Gaza, c'était les Esquimaux, eh bien, les Esquimaux auraient subi le même sort. Mmh. C'est ça la réalité. Faut pas mêler tout le temps de politique.
Oui, c'est intéressant. Antonella Bentono, c'est une question qui vous intéresse justement, vous, ce rapport à la politique. D'abord, peut-être, comment expliquer cette déclaration d'Emmanuel Macron, président français? Et puis, sur le ton biblique aussi des déclarations de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien.
Oui, Macron, il a fait un grand erreur. En disant, je suis tout à fait d'accord, en disant qu'il y a considérant le 7 octobre comme une attaque antisémite, parce que ça, elle mélange beaucoup l'idée d'un antisionisme, donc de l'existence de l'État d'Israël, avec l'existence des Juifs en tant que Juifs. Donc l'antisémitisme, c'est un concept différent. Et aussi, Macron a aussi mélangé l'idée des Hamas comme ISIS, qui en réalité sont deux organisations différentes avec des objectifs, des buts complètement différents. Et oui, là, moi, je suis, pour répondre à ce qui a été dit, moi, je suis d'accord tout à fait qu'il y a un conflit politique et des territoires. Donc, le problème, c'est un territoire où il y avait des Palestiniens et donc qui ont été forcés à quitter leur maison, donc leur terre en général. Mais la religion entre dans les conflits alors qu'il y a une manipulation de la religion comme a été faite par Benjamin Netanyahou, parce qu'il y a dans les derniers discours politiques de Netanyahou, dans les derniers mois, en fait, il a comparé les Palestiniens aux Amalécites. Il a cité, par exemple, différents passages bibliques. Et ça, c'est pour justifier la prise de Gaza. Et ça, c'est pas la première fois, même dans l'armée, l'armée israélienne. Les discours pour encourager les soldats sont pris dans la Bible. Et ça, il y a des véritables témoignages en fait de ça. Par exemple, avant la guerre des six jours, il y avait le général Shlomo Goren qui a lu le chapitre 20 de Deutéronome pour encourager vraiment les soldats à combattre cette guerre. Et en fait, je suis tout à fait d'accord pour l'idée que le sionisme religieux a pris pied, en particulier après la guerre des six jours, parce que même la guerre des six jours a été considérée comme un signe divin, parce que dans six jours, Dieu avait fait la création, donc il y avait la création en fait du monde par Dieu, et donc l'idée de la... que la guerre a été durée six jours était considérée une volonté divine. Mm. Et en particulier, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population, comme j'ai dit, qui est très religieuse et il faut distinguer en Israël les ultra-orthodoxes des orthodoxes. Parce que ce sont deux choses différentes.
Quand vous dites les ultra-orthodoxes juifs et orthodoxes juifs, c'est selon la radicalité, entre guillemets, ou en tout cas la puissance de la religion pour eux.
Oui, les ultra-orthodoxes sont beaucoup plus... sont vraiment les sionismes religieux sont les orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, il y a, comme était déjà dit, il y a une grande partie des ultra-orthodoxes, c'est-à-dire pour les juives qui sont habillées tout en noir et qui sont contre vraiment l'État d'Israël. Et en fait... au début de le sionisme avec Herzl, il était contraire à l'État d'Israël parce qu'il disait non, il faut retourner dans la terre d'Israël avec les Messie. C'est pas avec une action humaine. Et si, quand j'habitais à Jérusalem, dans Miacharim, qui est le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, il y a les drapeaux de la Palestine. Donc c'est vraiment. Et il se refuse des fois de parler hébreu. Il continue à parler yiddish.
On va entendre Guy qui habite à Paris. Bonjour Guy.
Bonjour Melchior. Bonjour mesdames, bonjour à toute la communauté. Oui, j'ai 74 ans bientôt, là dans quelques jours. Donc je me suis attaché à cette histoire. Souvenons-nous donc des accords de Sykes-Picot qui ont été mentionnés dans cette émission, j'ai entendu. Bien. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que donc la communauté internationale représentée uniquement par les États-Unis, la France et l'Angleterre, quasiment, qui ont décidé de donner un territoire à Israël, aux Juifs. parce que la diaspora juive était très puissante. Donc les Américains ont cédé. On a donné un territoire, mais ils n'ont pas volontairement donné de limite à ce territoire. Ils n'ont pas délimité les deux territoires de la Palestine et d'Israël. Sachant très bien, ils savaient très bien que ça allait porter des conflits.
Où voulez-vous en venir, Guy ?
Eh bien, que c'est à la communauté internationale aussi d'intervenir fermement pour pouvoir empêcher maintenant ces combats entre la Palestine et Israël. Ou tout à fait.
Oui, et comment faire, du coup, Guy ? Ouais.
Comment faire? Eh bien, c'est le combat. Moi, j'étais entraîné à ça. J'étais parachutiste, j'étais dans les commandos. J'étais entraîné à ça. Eh bien, on descend dans les tunnels si le Hamas ne veut pas rendre les otages. Mais on empêche Israël de continuer à bombarder.
Donc,
voilà. Une armée internationale, on a ce qu'il faut, les pays d'Europe, on intervient s'il le faut.
Eh bien,
on empêche l'armée Israël d'agir et c'est l'armée internationale. Que volontaire, à la limite, qui intervient pour que le Hamas rende les otages. S'il faut descendre dans les tunnels, on descend dans les tunnels.
Merci,
le combat
Guy.
Voilà.
Merci
c'est
beaucoup.
Une obligation humaine.
Merci pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. On a tous les avis ce matin. C'est ça aussi qui est intéressant d'entendre dans cette émission. Salam Kawakibi. Alors Guy, lui, il faut une armée peut-être internationale pour agir. Quel doit être le rôle de la communauté internationale, sachant que il y a peut-être eu déjà des tentatives en la matière.
Si vous voulez que je sois direct, je peux vous dire le premier devoir à la dite communauté internationale, c'est d'arrêter de mentir, d'arrêter son hypocrisie et d'arrêter d'avoir deux poids et deux mesures. Et après, il ne faut pas se demander pourquoi il y a tant de réfugiés et des immigrés qui débarquent sur nos territoires. Il ne faut pas se poser de la question sur les origines du terrorisme, si terrorisme il y aura, parce qu'on laisse un peuple depuis, pas le 7 octobre, c'est une erreur gravissime quand on parle de 7 octobre, comme le début de cette guerre contre Gaza, ça a commencé en 1948, précisément. Alors, il faut arrêter
tout. Même avant,
mais officiellement je parle, bien sûr, mais bien avant, fin 19e, les premiers kibbutz, les premiers installations, les premiers colonies ont bien commencé avant. Mais pour vous dire aussi que le fait maintenant que les pays qui étaient historiquement, qui jouaient historiquement un rôle je peux le qualifier de neutre, et la neutralité positive, la neutralité efficace, comme la France, et là, ils ont abandonné ce rôle, ils sont devenus des suivistes à la politique américaine, voire à la politique de Netanyahu. Vous vous rendez compte que Netanyahu était sur la première chaîne française, à 8 heures, et pourtant, lui, il est poursuivi par le Cour pénal international. Est-ce qu'on donne la parole à un criminel de guerre ou sur une chaîne française à 8 heures, à l'heure de grandes écoutes, et après, on dit que on n'est pas pour la politique de Netanyahu? Tout ça, ça met la France et surtout l'Europe dans une position très délicate et très complexe.
Oui, alors on peut peut-être revenir aussi, parce que vous évoquez justement la communauté internationale, ce qui lui a été reproché, c'est aussi sa rhétorique, c'est-à-dire comment est-ce qu'un État palestinien peut véritablement être construit sur le terrain quand la colonisation continue. Alors on peut aussi le comprendre comme une négation de la possibilité de construire un État palestinien, ces colonies. Qu'est-ce qui a suivi la déclaration d'Oslo, comment est-ce que est-ce que ça en est resté à de la rhétorique?
Je peux dire un mot?
Ah ben, vous avez la parole.
Je suis pleinement d'accord quand M. Kawakibi parle d'hypocrisie des puissances occidentales, en particulier, ça c'est maintenant moi qui parle, concernant précisément cette création d'un deuxième État, d'un État palestinien pour lequel on se contente de dire ces deux mots et rien de plus. En revanche, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il n'y a pas que l'hypocrisie, il y a l'indifférence. Et les conséquences de cette indifférence, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable suite sérieuse aux accords d'Oslo. Et cette indifférence a été également, pendant longtemps, jusqu'au 7 octobre, largement partagée. Je parle de l'indifférence au sort des Palestiniens. Elle a été partagée non seulement en Occident, mais en Israël. Moi, je peux vous dire que j'ai écrit un certain nombre d'articles dans ma vie. Je suis plutôt écrivain de romans, mais j'ai écrit d'essais, mais j'ai écrit un certain nombre d'articles pour la presse. Il y a un article qui m'a été refusé. J'étais en Israël pendant les élections de septembre 2019. Et j'ai écrit pour un grand journal français un article intitulé « Les Palestiniens n'existent pas ». Parce que personne n'en parlait. Ni la droite, ni la gauche, je le souligne, ni la gauche en Israël. Et cet article m'a été refusé, probablement au fait du titre. Et c'était la triste réalité. Et donc il y a cette indifférence qui n'est pas seulement occidentale, qui est aussi le fait des pays arabes. Cette indifférence au sort des Palestiniens qui fait que ce peuple s'est retrouvé vraiment très seul.
Mais Antonella Bellantono, d'où vient le fait qu'on n'arrive pas à dire ce qui se passe sur le terrain, à sortir de cette hypocrisie et de cette indifférence, comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a une intérêt, il a toujours été un intérêt très fort par l'Occident de garder Israël là où il était. En fait, il y a eu depuis les débuts l'idée de la création, d'encourager en fait la création d'une État israélien avec la déclaration de Balfour. Donc, moi, je pense plutôt il y a l'indifférence et il y a aussi une très grande responsabilité que l'Occident, donc l'Europe et en particulier aussi les États-Unis ont dans ce qui est en train de dans la situation actuelle en Israël et aussi dans le 7 octobre. Parce que l'intérêt de garder une partie d'Occident, parce qu'en fait, Israël est considéré la seule démocratie du Moyen-Orient, est considéré le seul pays occidental de le Moyen-Orient, donc d'avoir une impostation de l'Occident dans le Moyen-Orient était un intérêt de l'Occident depuis longtemps. Donc, il y a eu une indifférence, bien sûr, dans les dernières années, mais aussi une volonté explicite.
Mais d'où les Palestiniens refuseraient une démocratie, finalement, parce que qu'est-ce qui empêche qu'on puisse construire une véritable démocratie palestinienne avec un pouvoir qui les représente et non pas des groupes terroristes ?
À ce moment-là, moi, je pense qu'il n'y a pas un grand leadership parmi les Palestiniens. Une des plus grands leaders de la Palestine est Barghouti, qui est en prison maintenant. Mais il n'y a pas encore un grand leader. Et donc, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un avec lequel dialoguer, en fait. Mais ça n'empêche pas la création d'une démocratie. Et il faut aussi réfléchir sur la signification des démocraties, parce que si on pense qu'Israël est une démocratie, on est très loin de l'idée des démocraties, de toute façon.
Métine Arditi.
En quelques mots.
En quelques
mots. Ah ben, je suis désolé. Ah,
mais le cœur décidément.
On arrive à la fin de l'émission.
2000 ans d'histoire en quelques mots.
le bilan de l'histoire. Peut-être qu'il faut rappeler quelque chose de fondamental. Le peuple palestinien a toujours été et est encore dans une large mesure un peuple pluriel. Moi, je me souviens, et c'est un exemple, d'un déjeuner à Bethléem. Nous étions 10 à table, il y avait 6 religions autour de la table. Le peuple palestinien est habitué à vivre, à cohabiter avec des chrétiens, et bien sûr des musulmans, mais également des juifs. Comme l'a rappelé M. Kawakibi, très justement, il y avait des juifs, des communautés juives qui vivaient parfaitement en paix en Palestine, historiquement, dans la Palestine ottomane.
Merci beaucoup, Metine Harditi, auteur de Rachel et les siens, et puis créateur à l'origine de deux fondations, les Instruments de la Paix et Formation Harditi. Merci aussi à Salam Kawakibi, politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Et puis, merci beaucoup aussi à Antonella Bellantuono, théologienne, docteur en histoire des religions à l'Université catholique de Lille. Merci au studio de Bruxelles et au studio RNT qui vous accueillit.
Merci Madeleine, c'était vaste, on aurait pu tenir des heures, on refera certainement ce sujet. Merci à tous dans un instant. Comment parler de la guerre aux enfants ? À tout de suite.